RMC Motors avec Motorsport TV, Jean Lecroix.
Et oui, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission consacrée au sport mécanique. Toujours un immense plaisir de vous retrouver chaque dimanche de 13h à 14h. Et le programme est chargé, je vous l'ai dit, il est magnifique aujourd'hui avec le championnat du monde des rallyes, le Tour de Corse, en passe d'être remporté peut-être par un équipage français. Et puis la Formule 1, évidemment, du côté de Bahreïn avec les deux Ferrari sur la première ligne. Et enfin, les qualifs, et on vous l'a dit, du Grand Prix d'Argentine de moto GP qui se déroulera ce soir avec des qualifs sur le mouillé. C'est pas ce qu'on attendait devant, mais vous allez voir, c'est formidable. Tout de suite, on fait le tour des stades, comme l'on dit, et on commence par le top 14, la 23e journée, entre Montpellier et La Rochelle. Salut, Julien Landry.
Salut, Jean-Luc, bonjour tout le monde. 32 minutes à l'Altrad Stadium, et c'est Montpellier qui fait la course en tête, 21-14, mais c'est une très belle publicité pour le rugby, le match auquel on est en train d'assister. 5 essais, déjà, après 32 minutes de jeu.
Génial, merci beaucoup, Julien. On te retrouve un peu plus tard. On fait un saut sur les cours feutrés. Je change de ton, parce que là, c'est Eric Salio et Florent Serrard que l'on va retrouver pour Italie-France. Salut messieurs, on en est où du côté de Pouille?
Bonjour à Genova. Oui, eh bien, un set partout entre Luca Pouille et Fabio Fognini. L'Italien avait pris le meilleur départ, mais Luca Pouille a réagi. Et au début du troisième set, c'est assez équilibré. C'est un match qui est dur à lire, hein, Florent, parce qu'il y a 3-2 pour Fognini, mais il vient de perdre un break de manière assez étonnante.
Ouais, étonnante. En balançant, on peut dire, le dernier point du jeu qui laisse Luca débreaker. Il y avait du mieux chez Luca Pouille, justement. Et puis, en début de troisième manche, il redonne un petit peu. Il remet Fognini vraiment dans la course, en commettant de nouveau beaucoup de fautes directes, en se précipitant un petit peu. Bon, là il réagit, mais il faut faire attention parce que c'est un match un petit peu en dents de scie, comme Lucas peut nous a habitués parfois. Donc il faut être un tout petit peu plus constant et ça devrait le faire.
On y croit. Effectivement, on vous retrouve tout à l'heure, Eric et Florent, pour la suite de ce quatrième match de la Coupe Davis, donc entre l'Italie et la France. Mais tout de suite, on entre dans Motors, on va parler de rallye, et c'est le tour de chauffe.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Alors c'est plus que le tour de chauffe, hein, puisqu'on est dans le rallye, on est même dans la dernière journée, et pas très loin de l'arrivée. Si ça n'est fait, on va retrouver Lucas Vinois encore. Salut Lucas.
Salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Alors écoute, j'avais le résultat après la 11e spéciale. C'est toujours évidemment Ogier et Ingrassia avec leur Ford qui sont au commandement devant Tanak et Jarvé Oja, il faut le dire, avec la Toyota à 31 secondes. Où en est-on et comment se déroule le rallye?
Là pour l'instant on est toujours dans la power stage. Ogier n'a pas franchi encore la ligne d'arrivée. Ça devrait pas tarder dans les minutes à venir. Mais nul doute, il va s'imposer, sauf grosse erreur de sa part. Ogier qui a commis un sans faute avec les trois temps scratch lors des trois premières spéciales. Il a créé un matelas d'une trentaine de secondes d'avance et depuis il gère depuis vendredi et puis samedi pareil. Il a géré avec de peu d'écart avec Thierry Neuville qui était actuellement deuxième. Donc voilà, tout va bien pour le pilote français, le pilote M-Sport, qui va remporter vraisemblablement son deuxième tour de Corse.
Eh oui, deuxième tour de Corse, et ce serait, si mes calculs sont bons, la 41e victoire en rallye de championnat du monde pour l'équipage Ogier Ingrassia. On y revient dans un instant. On va tout de suite écouter Lucas qui avait rencontré justement Sébastien Ogier sur sa rivalité avec Sébastien Loeb. On va en parler naturellement, qui était là pour sa deuxième pige de la saison. Ogier répond à cette rivalité qu'il oppose au nonuple champion du monde français.
C'est toujours un piment en plus à la course. On sait que, on a vu au Mexique qu'ils ont fait un bon retour avec de belles performances là-bas. Et on peut s'attendre à ce que ça soit le cas une fois de plus ce week-end, encore plus sur un terrain où ils ont toujours été très rapides et où la Citroën a toujours été la plupart du temps la référence aussi. Donc on peut s'attendre à ce que ça soit des concurrents pour les avant-postes. Maintenant, l'objectif principal d'une saison pour nous, c'est toujours le championnat. Et c'est sûr que le plus important, c'est de battre nos rivaux direct pour le championnat, mais c'est sûr que c'est bien aussi de gagner des rallyes, et pour gagner des rallyes, il faut battre tout le monde, Seb Loeb inclus.
Évidemment, c'est ce qu'il est en train de faire, hein, puisqu'on va rappeler le classement général provisoire, Lucas, avant cette épreuve du Tour de Corse. C'est Ogier qui était en tête avec 56 points, devant Thierry Neuville, le Belge de chez Hyundai, 52 points. Et derrière, le trou est presque déjà fait, puisque Andreas Mikkelsen, avec l'autre Hyundai, est à 35 points. Chris Mick, avec la Citroën, 32. Ensuite, Latvala, 31, etc. Donc, c'est vraiment le duel entre Ogier et Neuville auquel on assiste. Lucas, le temps est resté clément, hein, pour ce Tour de Corse.
Oui, alors il a beaucoup plu mercredi, des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Corse, mais c'est moins gênant que sur un rallye sur terre. Donc forcément, là sur l'asphalte, ça n'a pas gêné, peu gêné en tout cas les concurrents, même si certains s'en sont plaints. Mais pour être objectif, normalement, ça ne doit pas poser de problème. Et la preuve, Ogier, lui a prouvé que ça ne posait aucun problème, puisque il ne s'est pas mis à la faute, comme d'autres de ses concurrents, Sébastien Loeb le premier, mais aussi Chris Meek qui est parti à la faute. C'est très très compliqué ce Tour de Corse pour Citroën qui évolue à domicile, on le rappelle, puisque c'est quand même le Tour de Corse, c'est quand même le Rallye de France.
Bien sûr, c'est le constructeur français qui est engagé. Vous le savez, on pourra en avoir discuté il y a quelques jours avec Carlos Tavares. Justement, évidemment, Citroën est chargé de porter l'étendard du groupe PSA en rallye. Et là, on peut pas dire que ce soit tout à fait conclu. On va écouter, Lucas, tu as rencontré également et tu as posé la question à Sébastien Ogier concernant le règlement, ce fameux règlement dont on parle beaucoup et l'ordre des départs. Alors, ça ne s'appliquait pas trop à la Corse, c'est un rallye sur asphalte, mais évidemment dès qu'il y a des gravillons, dès qu'il y a de la terre, c'est différent. Écoutez l'opinion d'Ogier qui est assez véhément là-dessus.
La spéciale qualificative le jeudi, c'était pour moi une très belle option. Après, mettre les WRC de devant éventuellement pour ensuite offrir aux WRC derrière des conditions un peu plus équitables pour tout le monde. Il y a pas mal de solutions, mais on n'a pas l'impression que ça soit une solution voulue par rapport à les autorités dirigeantes du WRC à l'heure actuelle. Donc il faut faire avec et c'est pour ça qu'aujourd'hui, honnêtement, je préfère ne plus trop y penser parce que c'est juste de la frustration en plus que de ressasser ça à chaque fois.
Et il a raison, mais tu avais bien fait, Lucas, de lui poser cette question. C'est vrai que c'est un problème qui revient à chaque fois parce qu'on ne comprend pas comment il peut y avoir de tels écarts de performance. Hein. On rappelle que Ogier, en Suède, avait eu beaucoup de difficultés alors que son talent est éclatant puisque sur les trois premiers rallyes, il en remporte deux.
Oui, le problème c'est toujours le même, c'est-à-dire que sur les rallyes sur terre ou alors sur neige, le premier balaye la route pour les autres. C'est simple et c'est ce qui va se produire lors du prochain rallye, c'est-à-dire qu'Ogier va ouvrir la route et va balayer pour les autres et ce sera vraisemblablement très compliqué pour lui d'aller chercher la victoire ou même un podium si ses concurrents ne partent pas à la faute et si les autres voitures se montrent compétitives. On a posé aussi la question à Sébastien Loeb, lui aussi trouve que la séance qualificative c'est la meilleure chose. Le problème, c'est que le promoteur des rallyes, le WRC, lui, veut créer du spectacle, pas forcément d'équité sportive, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'ordre de départ est contesté.
Ben oui, mais il y a quand même une fédération qui est là, hein, normalement, la FIA, qui est chargée d'édicter les règlements sportifs, et donc on attendrait que ce soit le sport qui passe devant. Enfin bref, vaste débat et pas limité au rallye. Je vous rappelle que le prochain rallye, c'est l'Argentine, ce sera du 26 au 29 avril. Alors, on vous l'a dit, il y avait un nonuple champion du monde au départ, et il ne restera plus qu'une occasion pour le voir au volant, en tout cas c'est ce qui est prévu pour le moment. Il s'agit évidemment de Sébastien Loeb, frustré par sa sortie de piste dans la deuxième spéciale. C'est au micro de Lucas Vinois.
C'est vrai que c'est frustrant que ça se termine aussi rapidement. Première spéciale c'était plutôt bien passé, pas de chaleur, rien, on avait un rythme qui était bon et voilà, on s'est fait surprendre dans la deux. On est terminé, mais bon, demain on repart, mais c'est plus pareil. Quand on est plus en bagarre, on n'a plus rien à jouer, donc on va rouler pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux spectateurs qui m'attendaient au bord de la route et on n'a pas pu passer, donc voilà, c'est un peu frustrant comme situation.
Eh oui, un peu dépité pour le moins Sébastien Loeb qui avait évidemment des grandes ambitions. Il espérait un petit peu refaire le coup du Mexique où là aussi il était devant, il était bien en tout cas jusqu'à sa crevaison. Là aussi il était passé sur un caillou. Là pour le moment il est 14e au classement avant la toute dernière spéciale. On va l'écouter à nouveau au micro de Lucas Vinois en disant on se réconforte et qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on participe comme ça au rallye comme il vient de le dire, simplement pour participer. Sébastien Loeb.
Tout allait bien, donc on a roulé, et puis ça a fait des bons temps, donc c'est cool. On se réconforte un peu avec ça, et ça augmente un peu la frustration d'hier, même s'il n'y avait pas besoin de ça pour être frustré, mais bon, voilà, c'est comme ça.
Et oui, c'est comme ça. Alors effectivement, c'était la grosse attraction, hein, même si évidemment Sébastien Ogier et Julien Ingrassia font le spectacle et font mieux que ça, Lucas, puisqu'ils sont devant. La super spéciale doit se terminer quand ?
Elle doit se terminer là dans les minutes à venir, mais pour tout vous dire, il y a une petite rupture de faisceau sur l'écran géant. Ah. Donc pour l'instant, un peu compliqué de suivre cette Power Stage. Mais pour revenir à Sébastien Loeb, on discutait avec du personnel de chez Citroën qui ne l'avait jamais vu aussi frustré que vendredi après être sorti de la route. Hein. Franchement, apparemment quelques noms d'oiseaux ont volé à l'intérieur de l'habitacle de la voiture parce que Sébastien Loeb était rapide. Il était le seul à finir sous les secondes lors de la première spéciale par rapport à Sébastien Ogier. Il avait des possibilités, d'autant plus que lui ne joue pas le championnat, donc il aurait pu prendre des risques plus importants que Sébastien Ogier. Sébastien Ogier n'aurait pas été à la faute pour juste gagner devant Sébastien Loeb. Le championnat est bien plus important, et c'est pour cette raison qu'il était aussi frustré.
Bien sûr, on le comprend, il est là pour faire le show, pour faire le spectacle, et on avait bien compris, malheureusement pour Citroën, une nouvelle fois, on l'avait dit dès le début de la saison, que les ambitions de l'équipe française n'étaient même pas franchement de remporter le championnat du monde, c'était de faire quelques coups d'éclat, et là, voilà une belle occasion de rater, malheureusement, suite à cette sortie de route de Sébastien Loeb et de Daniel Elena. Je vous propose d'écouter le dernier son, justement, concernant Sébastien Loeb et la capacité, peut-être, de revenir plus tard, ce qui est prévu dans les saisons futures ou autres. Il répond à la question de Lucas Vinois.
Aujourd'hui, il n'y a rien de prévu pour les autres saisons. Ma priorité, c'est d'essayer de faire correctement mon travail sur le championnat du monde de rallycross avec la 208. Et puis après, ça s'est décidé pas forcément il y a hyper longtemps. Voilà, donc non, il n'y a rien de prévu pour l'instant.
À voir, effectivement, on sait qu'il va participer avant tout, et c'est son objectif de la saison, au championnat du monde de rallycross, effectivement, avec une Peugeot. Et on va voir ce qu'il est capable de faire. Allez, on fait un petit tour.
Je te coupe, Jean-Luc, puisque ça vient de tomber, les résultats de la Power Stage. C'est Lapi qui a effectué le meilleur temps devant Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Donc Sébastien Ogier qui prend des points, 3 points dans cette Power Stage, et qui s'impose donc sur ce Tour de Corse devant Ott Tanak, Thierry Neuville, Dany Sordo et Elfyn Evans, le coéquipier de Sébastien Ogier.
Ok, super, merci beaucoup pour cette info chaude. Donc la victoire de l'équipage français Ogier Ingrassia à bord de la Ford. Quel résultat! 3 victoires en 4 rallyes seulement. Les voilà qui confortent évidemment leur position au classement général provisoire du championnat. On y revient dans un instant et en détail avec toi, Lucas. Tout de suite, on fait un petit tour des stades ou présumait-elles et des cours. On commence par le rugby. C'est la mi-temps, je crois, entre Montpellier et La Rochelle, Julien Landry.
Ouais, quasiment, Jean-Luc. La sirène vient de retentir. Les Montpellierains mènent 21-14. 3 essais à 2. Il y a une dernière pénalité sur le gong pour les Rochelais, 40 mètres légèrement excentrés sur le côté droit, que Ryan Lamb va tenter pour amener les Rochelais dans le clou du bonus défensif. Alors elle est un petit peu loin, il va falloir qu'il se concentre. On a 5 secondes. Voilà, Ryan Lamb qui s'élance 40 mètres légèrement en bord de touche. Le ballon qui part, qui s'élève bien et qui va passer entre les perches. Et voilà ce score à la mi-temps de 21-17 en faveur des Montpellierains.
Merci beaucoup Julien, on te retrouve pour la deuxième mi-temps dans un instant naturellement. Et c'est pas la deuxième, c'est la quatrième mi-temps, le quatrième match entre Lucas Pouille et Fabio Fabini. Où on en est, Eric Salio et Florent Serra à Genova.
À Genova, 7-7 entre les deux numéros 1. C'est le match des numéros 1 entre donc Lucas Pouille et Fabio Fognini. Et ce troisième set a l'air très accroché. Il y a 4 jeux à 3 pour Fabio Fognini. Et c'est le français qui est au service. On va vraiment rentrer, Florent, dans le money time. Va pas falloir se trouer, pour Lucas.
Et surtout que c'est un set quand même assez important. Ils y sont depuis un petit moment maintenant. Celui qui va mener 2-7-1, quand même, ça va être bon pour la tête, j'ai envie de dire. Donc ouais, comme Eric le dit, ça va être le moment chaud. Il va falloir pas se précipiter, comme Lucas a fait parfois, mais bien préparer ses coups, trouver de la longueur, ralentir parfois un petit peu le jeu pour mieux attaquer derrière. C'est ce qu'il arrive bien à faire, en tout cas depuis un set et demi maintenant. Donc il faut impérativement prendre ce set et puis continuer sur cette même lignée, et ça va le faire. Allez.
Alors merci Florent, merci Eric, on vous retrouve dans un instant pour la suite de ce match effectivement très important, ce tournant peut-être de la Coupe Davis. On revient en WRC, on revient au championnat du monde des rallyes du côté du Tour de Corse pour la 4e épreuve de la saison. Je n'ai pas eu le temps de faire le calcul, surtout en fonction des points de la Power Sedge, Lucas, mais Sébastien Ogier est vraiment en train de prendre l'avantage sur Neuville qui n'est que 3e de ce rallye.
Oui, il termine 3e de ce rallye, mais surtout, et comme tu le dis, dans l'optique de prendre un avantage un petit peu plus grand, Neuville ne marque pas de points dans cette Power Stage, puisque Thierry Neuville ne prend que la 9e place, donc pas de points pour lui, alors que Sébastien Ogier, lui, va en prendre 3. De toute façon, on a senti Thierry Neuville pas dans le coup, dès le début du rallye, qui était très très remonté contre sa voiture, et qui a même déclaré que tout le monde devait travailler. Quand on lui a posé la question s'il fallait trouver quelques réglages, il a dit non, les réglages, ça ne suffit pas, c'est sur la voie voiture qu'il faut travailler. Donc bon, un Thierry Neuville plutôt énervé qui normalement devrait aller un petit peu mieux sur les rallyes sur terre. Pour l'instant sur asphalte, Hyundai ne trouve pas la solution.
Et oui, parce que j'ai fait le calcul pendant que tu me répondais pour avoir le classement avec précision. Sébastien Ogier doit porter son avantage, tiens-toi bien, à 84 points à l'issue de ce rallye. 25 pour la victoire et 3, tu viens de nous le dire, lors de la Power Stage. Alors que Thierry Neuville ne marque que les 15 points de la 3e place et 0 dans la Power Stage, donc 67. Donc l'écart se creuse évidemment entre les deux équipages. Et ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle évidemment pour Neuville et Gilles Soul, les deux Belges de chez Hyundai. Et Andreas Mikkelsen derrière, il ne termine que 6e. Là aussi, on fera les comptes, mais l'écart se creuse. C'est véritablement un duel auquel on va assister dans ce championnat du monde des rallyes. On s'y attendait un petit peu entre Ogier et Neuville. Lucas, tu as posé la question justement à Sébastien Ogier de savoir de quelle manière il devait se comporter, lui qui mène ce championnat du monde des rallyes depuis le début de la saison. On écoute sa réponse. Seb Ogier.
On sait que c'est difficile d'être devant, donc il faut attaquer, il n'y a pas de question à se poser. Donc quand on part sur un rallye, et forcément le départ du rallye, on est tous à l'attaque. Et puis après, selon la physionomie de la course, effectivement, si jamais on arrive à creuser un écart assez rapidement, ensuite le week-end change un petit peu, mais c'est quand même rare à l'heure actuelle qu'il faille gérer. La plupart du temps, c'est quand même à bloc tout le temps.
À bloc tout le temps, ben évidemment, en rallye, et c'est pour ça que c'est extrêmement impressionnant. On le rappelle également, on le répète, Lucas, en rallye, évidemment, le rôle du pilote, le rôle des équipages est vraiment primordial. C'est un peu comme la moto, Bon, certes, le matériel, Neuville peut incriminer la Hyundai, peut-être moins performante, mais là aussi, Ogier, il a su faire évoluer la Ford comme il fallait.
Mais c'est un parfait metteur au point aussi Sébastien Ogier. On rappelle qu'il est quand même mécanicien de formation. C'est quelqu'un qui connaît, qui sait affiner les réglages de sa voiture pour aller vite. Et peut-être que d'autres pilotes ne sont pas capables de le faire. Alors après, il est difficile de dire si aujourd'hui la Fiesta est la meilleure voiture du plateau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, ça n'était pas le cas. Et Sébastien Ogier est quand même parvenu à être champion du monde pour la 5e fois de sa carrière. Cette année, on rappelle, il y a le soutien en plus de Ford et voilà, aujourd'hui la voiture est mieux née, elle est plus performante. On te rappelle que c'est la 2e année de ces WRC, du nouveau règlement, et là où la voiture ne se comportait pas bien sur asphalte, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, et la preuve, il remporte avec M-Sport son premier rallye sur asphalte.
Ah oui, c'est absolument remarquable cette performance, surtout que pour rester chez M-Sport et Ford, Elfyn Evans termine bien 5e, c'est bien ça, ça n'a pas été modifié dans la dernière spéciale. Je sais qu'avec 3 secondes d'écart entre Sordo et Evans, donc à voir.
Elfyn Evans qui termine 5e juste derrière Dani Sordo.
Ouais, donc on voit que là aussi la victoire, elle repose bien sur l'équipage, sur Ogier Ingrassia. J'y reviens et j'insiste lourdement, c'est la qualité de cet équipage qui est extraordinaire, et j'y inclus toujours évidemment Julien Ingrassia. Alors on va quand même dire un mot de Ott Tanak avec la Toyota, le plus rapide des pilotes Toyota, alors que Lapi, tu viens de nous le dire, remporte la Power Stage, mais il faut aller très très loin pour trouver d'autres pilotes Toyota, Lucas.
Oui, alors c'est un peu en trompe-l'œil, puisque deux Toyota faisaient un très très bon rallye, celle de Lapi et celle de Tanak. Latvala étant beaucoup plus loin, et d'ailleurs c'est un petit peu inquiétant. Il était pas dans le rythme, mais il est sorti lors de la 8e spéciale, et d'ailleurs il a abandonné. Mais les deux Toyota donc qui fonctionnaient extrêmement bien, mais Lapi et Tanak qui faisaient tour à tour un peu. D'un coup c'était le premier qui faisait le meilleur temps, un coup c'était le deuxième. Mais voilà, une Toyota qui fonctionne correctement, mais ce sont deux pilotes qui n'ont pas le profil, qui n'ont pas l'envergure ni l'expérience pour l'instant de Sébastien Ogier. Donc pour l'instant, ils ne peuvent pas se mêler à la victoire. Mais attention à Ott Tanak, qui est quand même très très prometteur.
Il est très prometteur, effectivement. Ott Tanak qui a changé d'équipe cette saison, on le sait bien, pour venir chez Toyota. Merci beaucoup, Lucas Vinois. Bonne arrivée. Merci. Je pense que tu vas essayer de nous arracher quelques mots, évidemment, de Sébastien Ogier pour cette superbe victoire. La 41e de sa carrière, la 3e de la saison, qui conforte évidemment la position de l'équipage en tête du WRC dans l'attente du prochain rallye. Vous restez dans Motors sur RMC plus que jamais. On va attaquer la Formule 1 avec Adrien dans un instant. On a plein de sons à vous faire écouter avec une belle grille. Vous allez le voir, emmené par les Ferrari. Vous restez avec nous.
RMC Motors. RMC Motors avec Motorsport TV. Jean Lecroix.
Et oui, on y est bien dans ce moteur. On est en plein milieu même. On va aborder maintenant la deuxième ligne droite, le dernier segment en parlant de Formule 1. Mais avant, nous allons écouter les petites balles jaunes qui rebondissent sur le cours de Genova pour le quatrième match de la Coupe Davis entre Pouille et Fonini. Je le dirai bien cette fois, Eric.
Oui, Fabio, c'est mieux. Fabio,
molto
oui,
bene, molto
bene. Il préfère, je crois, en plus.
Grazie.
Fabio, il pazzo, le fou. 5 jeux à 4 pour le bel italien dans ce troisième set. C'est très tendu. On rappelle que les deux joueurs sont à égalité, une manche partout. C'est Lucas Pouille qui est au service. Il va falloir vraiment serrer le jeu. 5-4 donc, Italie, 15 à Lucas qui était mené 5-3, Florent, et qui a débreaké heureusement.
Heureusement, aidé aussi par Fabio Fognini. C'est un peu tous les deux là qui se rendent coup pour coup avec des très bons passages aussi chez Fognini. Ça dépend beaucoup de l'italien parce que après il redonne son break en commettant pas mal de fautes directes, heureusement, mais quand il a ses passages où il prépare bien l'échange, il repousse Lucas Pouille, le français fait pas mal de fautes, donc il faut que Lucas tienne encore, peut-être aller le prendre au tie-break ce set, et puis dans la tête, s'il tourne à 2-7-1, je pense que ça sera bien après.
Allez, on va passer maintenant à la Formule 1. Après ce point sur le match de tennis de la Coupe Davis, on y reviendra dans un instant. C'est le briefing, et quel briefing? Celui de la Formule 1.
RMC Motors.
90, 150 mètres, droite ligne, droite 120.
Le briefing.
Alors ça, c'était pour le rallye, la voix qu'on entend du copilote, c'est pas grave en Formule 1. Ils sont tout seuls, mais moi je suis pas tout seul. J'ai Adrien Tambay avec moi.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Et puis j'ai le sémillant Louis Amar là-bas du côté de Bahreïn.
Salut Louis.
Salut les amis, bonjour à tous.
Bon, alors question classique, tiens Louis, je vais te prendre, oh non pas à froid, mais je connais la réponse là aussi. Pas de pluie, pas d'orage en vue sur Bahreïn, même si je crois qu'il y a quelques gouttes qui sont tombées dans la semaine, hein.
Oui, il y en a quelques-unes qui sont tombées en effet, c'était hier matin très très tôt à l'aube, des pluies assez diluviennes mais très brèves qui sont tombées sur Bahreïn. Rassurez-vous, il n'y en aura pas aujourd'hui. Pour l'instant 45 degrés sur la piste, 31 degrés dans l'air, mais évidemment il fera un petit peu plus frais tout à l'heure parce que cette course, on vous le rappelle, se dispute à la nuit tombée.
Et oui, le départ ce sera à 17h10 tout à l'heure sur l'antenne de RMC. Je vous rappelle bien sûr qu'RMC c'est le diffuseur officiel du championnat du monde de Formule 1, que RMC est la radio officielle du Grand Prix de France de Formule 1. Jusqu'à l'événement, toutes les semaines, toutes les infos dans cette émission, dans Motors. Et puis, on vous fera régulièrement gagner des places. Ça va venir, je vous le garantis. Bon, avec toi, Louis, on va parler de cette première ligne, toute de rouge vêtue, Vettel devant Raikkonen, avec un Vettel qui a dit, j'ai vu en conférence de presse après, qu'il a dit que la voiture faisait ce qu'il lui demandait. C'est formidable quand même.
Exactement, c'est formidable. Mais Sébastien Vettel était quand même assez rassuré de cela, parce que finalement hier il n'a pas énormément roulé, notamment lors de la troisième séance d'essais libres où il a dû assez rapidement revenir au stand pour un petit problème sur la carcasse de sa voiture. Il y avait un petit morceau de sa voiture sur le flanc droit qui était sur le point de se détacher, et donc il a fallu rafistoler tout cela. En fait, Sébastien Vettel a expliqué qu'il y avait beaucoup de travail consenti depuis le Grand Prix d'Australie, et que il espérait que sa voiture réagisse comme il l'attendait, qu'il avait confiance en elle, et qu'il était donc ravi hier d'avoir pu constater les progrès effectués depuis l'Australie. Autre chose à souligner aussi, on l'avait déjà constaté l'an dernier, sur ce type de circuit, avec ce type de chaleur, la Ferrari semble encore un petit peu plus performante que la Mercedes. En qualification, jusqu'à présent, les flèches d'argent réussissaient à faire le travail. En course, c'était une autre histoire. On va voir cet après-midi si la firme allemande a réussi des progrès en la matière.
Oui, merci. Alors que je garde un œil, tu vois, aussi sur Paris-Roubaix, on est à 156 km de l'arrivée, il y a eu un crash là au milieu du peloton. Sur les pavés, malheureusement, il y a un coureur qui semble rester au sol. On va vous donner des nouvelles, évidemment, dès que possible, de ce Paris-Roubaix. Vous le savez, vous allez le suivre également sur l'antenne de RMC très bientôt. On en revient à la F1 et on va écouter justement Sébastien Vettel, le poleman, le détenteur de la pole position, la 51e de sa carrière de pilote de Formule 1 et la première de la saison, au micro de Lucas.
On a essayé de comprendre la voiture après l'Australie, et avec un grand prix de recul, on a pu analyser et observer beaucoup de choses. On a travaillé au simulateur aussi, en essayant différents réglages, en préparant la voiture au mieux pour ce circuit. Et dans l'ensemble, je me suis senti bien, même si je n'ai pas beaucoup roulé ce samedi. Mais je savais que si la voiture se comportait comme je le voulais, je n'aurais pas besoin d'énormément de tours. J'avais confiance et ça s'est bien passé. Donc je suis très content.
Et c'est évidemment Louis, hein, c'est ton deuxième prénom, Lucas, hein.
C'est ça, quasiment, quasiment. T'as pris un peu d'avance.
Bah oui, non, mais vide-moi, pouille, qu'est-ce que tu veux? Bon, Louis, bien sûr. Alors, Adrien, ton analyse sur cette domination des Ferrari, on peut le dire. Alors, Raikkonen, lui, n'était pas aussi expansif, on va dire, qu'évidemment, le Pollman, à la Raikkonen, quoi, hein, comme d'habitude. Mais enfin, il termine derrière, il termine tout près. Il s'en est fallu de peu qu'il décroche cette pole. La dernière, on le rappelle, c'était à Monaco, hein.
Oui. Ce qui est drôle et intéressant, c'est de voir Sébastien Vettel qui, en ce début de championnat, a la réussite pour lui. En tout cas, du côté de Kimi Raikkonen, il a dominé son coéquipier tout le week-end et il est tombé sur du trafic en qualification. Il était probablement en train de jouer de la pole lui aussi. Il échoue à quelques centièmes de son coéquipier. À Valtteri Bottas, pas très très loin, mais quand même en deçà, quand on sait qu'il a fait la pole l'année dernière à Bahreïn et qu'il est performant là-bas. Bon, faudra pas oublier Lewis Hamilton qui a réussi un très très beau tour avec des pneumatiques soft, un peu plus durs que ses concurrents, et qui partira d'un peu plus loin. Par contre, c'est fabuleux pour le championnat de voir ce vrai rapprochement de Ferrari. Pour l'instant, la Mercedes n'est pas aussi dominatrice que l'année dernière et loin de là, elle est même un peu en difficulté. On n'a pas vraiment les réponses, pas comme l'année dernière.
Hein. Absolument.
Certes, tu as parlé de la température qui favorisait la Ferrari, mais là, Mercedes ne semble pas se plaindre de ça, et on recherche, on trouve pas où est la performance manquante en fait.
Et oui, et pourtant, du côté de chez Mercedes, hein, tu t'en souviens, Louis, on a demandé après les essais hivernaux à Barcelone à modifier un petit peu la qualité des pneumatiques, et on l'a fait apparemment chez Pirelli. C'était
oui, Mercedes
pas seulement
a été entendu,
hein,
c'est ouais.
ça. Ouais, c'était pas seulement une demande de Mercedes d'ailleurs, hein, pour être clair. C'était pas un avantage pour Mercedes, mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Bah tiens, comme tu as rencontré également Lewis Hamilton, qui, on le rappelle, avait signé le quatrième temps de ses qualifications à Bahreïn, mais partira seulement neuvième à la suite de la pénalité de 5 places qui lui a été imposée. Ça y est, ça commence pour changement de boîte de vitesse. On écoute Hamilton sur ce qui s'est passé, pourquoi ça aurait pu être mieux.
Il ne s'est pas passé grand chose. Ce n'était juste pas ma meilleure séance de qualification. Ça aurait pu être mieux, mais je n'ai pas réussi un bon tour. C'était dur. J'ai donné tout ce que je pouvais, mais voilà. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Je n'ai pas encore de stratégie pour la course. J'espère que je serai en mesure de dépasser, mais ça ne sera pas facile. C'est serré devant. Le but est de se rapprocher de la tête, mais je ne sais pas encore exactement comment. Tout ce que je sais, c'est que ça sera une journée difficile. All I know is going to be
a tough day. Alors évidemment, ce sera une journée difficile. On le rappelait, Louis, évidemment, en priori, pour gagner à Bahreïn, il faut partir des deux premières lignes. C'est pas tellement original, hein. C'est un peu le cas pratiquement sur tous les circuits. Donc là, partir effectivement 9e sur la grille, ça va être un sacré challenge pour Hamilton.
Oui. Ça serait une performance inédite, évidemment, si Lewis Hamilton parvenait à l'emporter. Il y a quand même deux arguments qui peuvent faire pencher la balance en sa faveur. D'abord, la stratégie, parce qu'il dit qu'il n'a pas de stratégie. Bon, nous, on a quand même compris la sienne, hein. On a réussi à la décrypter hier lors de la Q2. Il a décidé de se qualifier avec des pneus soft, donc il s'élancera tout à l'heure avec des pneus soft, à l'inverse des 9 autres hommes qui composent le top 10. Donc, ce sont des pneus qui devraient lui permettre de différer son premier arrêt au stand. Et puis, l'autre chose qui pourrait faire basculer le Grand Prix en sa faveur, c'est qu'il y a souvent, ici à Bahreïn, intervention du safety car. Il y en avait eu un notamment l'an dernier après un accrochage entre Carlos Sainz et Lance Stroll. Ça veut dire que avec une voiture de sécurité, Lewis Hamilton aurait la possibilité de se rapprocher des hommes de tête et à ce moment-là d'enchaîner les dépassements, comme il a déjà prouvé qu'il pouvait le faire sur des circuits où on pouvait dépasser, par exemple à Spa l'an dernier, où il était parti assez loin et où il avait réussi à remonter sur le podium.
Eh oui, c'est vrai que l'exercice est périlleux, Adrien, mais enfin là il faudra une sacrée stratégie. Peut-être ces pneumatiques vont l'aider naturellement, et la température peut-être du tracé, même si on rappelle que cette épreuve se déroulera en partie avec la nuit qui va tomber. Mais on avait remarqué hier, c'était 28-29 degrés, hein, ça s'est pas tellement refroidi en fait.
Le challenge pour Lewis Hamilton, il est à plein de niveaux, et ça va être une course compliquée, mais il les aime, hein, ces courses.
Oui.
Une course d'attaque, de dépassement, mais en plus de ça, on se met forcément en danger quand on prend le départ depuis une 9e place. On est au milieu du paquet. On a un premier virage à Bahreïn qui fait office d'entonnoir. On a souvent vu des incidents,
des empilages.
On parle de safety car, mais voilà, Lewis Hamilton n'est pas à l'abri d'être carrément la victime dans l'affaire. Donc ça va être pour lui une course compliquée à gérer. Maintenant, si tout se passe bien, effectivement, il a la bonne stratégie à employer, mais il part avec un sacré désavantage. Même s'il a une meilleure stratégie pour éventuellement remonter le peloton, ceux qui sont devant, les deux Ferrari, elles vont envoyer du lourd et essayer de creuser un écart qui sans safety car sera difficile à combler, même avec une stratégie différente.
Bien sûr, et puis c'est une la palissade que de dire qu'évidemment il vaut mieux partir devant que exactement. Que derrière, ça de toute façon c'est pour ça qu'il y a cette bataille pour la pole. Écoutez d'ailleurs ce que Seb Vettel a dit à Louis à propos justement de cette confiance qui semble habiter les hommes de chez Ferrari.
I don't know, now is April and you know.
Je ne sais pas, là nous ne sommes qu'en avril et l'objectif c'est d'être encore là vers le début du mois de décembre pour la fin du championnat, c'est encore très loin, mais évidemment on est heureux, on est devant, on prend, le plus important c'est qu'on ait une bonne voiture, c'est le cas pour l'instant et ça booste l'ensemble de l'équipe, ça nous donne confiance et ça nous donne envie de travailler encore plus dur, mais le jour qui compte c'est le dimanche, c'est bien d'être là, mais on verra ce qui se passera pendant la course.
Et puis attention, il y a quand même une Mercedes aux affaires, hein, Adrien, elle sera sur la deuxième ligne aux aguets avec Valtteri Bottas qui avait signé la pole d'ailleurs l'an dernier sur ce tracé et qui a un petit peu à se rattraper lui aussi par rapport à ce Grand Prix d'Australie frustrant.
Bah, on s'en souvient aussi, il a été présent l'année dernière quand Hamilton était un peu en deçà et effectivement là il est troisième sur la grille, il est pas aussi bien que l'année dernière en qualification et souvenons-nous il s'était un peu effondré en course à Bahreïn avec des problèmes de pneumatiques et de surchauffe et ça avait été une mauvaise course pour lui parce qu'il séançait effectivement de la pole. Aujourd'hui, il va avoir à cœur d'aller chercher les deux Ferrari et ça va, je pense, se jouer aussi au départ et sur la sur la qualité que la Mercedes aura à garder les pneus en bonne forme, mais bon, les Ferrari sont fortes dans ce jeu-là aussi.
Allez, on va l'écouter tout de suite justement Valtteri Bottas au micro de Louis Amar.
The lap was good and everything. My performance felt okay, but
mon tour était bon dans l'ensemble et ma performance aussi. Mais il faut accepter que Ferrari était plus rapide aujourd'hui. Il n'y avait rien à faire. Impossible d'être devant eux. Ils ont beaucoup progressé et en plus, je pense que ce type de circuit correspond bien à leur voiture. C'est moins le cas pour nous. On a du mal à s'adapter à ce genre de piste et à ce genre de température. Donc on a du travail.
Oui, il y a du travail, Louis. Alors si on regarde derrière, Daniel Ricciardo a bien relevé le gant pour Red Bull parce que son équipier Verstappen, lui aussi, il s'est tapé sur les doigts tout seul.
Ouais, exactement, Max Verstappen il est parti à la faute en Q1, il était extrêmement déçu, on l'a aperçu à l'issue de la séance de qualification dans le paddock, il est très vite retourné dans son garage pour regarder les datas, il y a eu de longues réunions qui se sont poursuivies jusque tard à Bahreïn avec ses ingénieurs pour comprendre exactement ce qui s'était produit, donc grosse déception pour Max Verstappen qui a un petit peu du mal hein, honnêtement à rentrer dans sa saison, déjà il y a 15 jours en Australie, pendant la course cette fois-ci il était parti à la faute même si ça ne l'avait pas contraint à l'abandon. En revanche pour Daniel Ricciardo, ça va plutôt bien, il a échoué à un souffle du podium chez lui alors qu'il avait été pénalisé de 3 places sur la grille et puis hier finalement on l'a vu pas si loin des hommes de tête des Mercedes et des Ferrari, donc peut-être que le match avec la Red Bull va pouvoir se disputer tout à l'heure pendant la course.
Et c'est pas impossible du tout effectivement, si je regarde les temps en qualification, 143 millième entre les deux Ferrari de Vettel et Raikkonen, Bottas est un 166 millième, c'est rien, hein, c'est un souffle de Vettel, Hamilton à 262, on sait qu'il partira plus loin derrière, et Ricciardo, que nous allons écouter maintenant, à 440 millième. Écoutons justement ce qu'il pense de cette qualification et de ses chances en course au micro de Louis Amar.
To be that close in qualifying. Être si près des autres en qualification, c'est un peu frustrant parce qu'on reste derrière. Mais en même temps, c'est encourageant. Nous ne sommes qu'à 4 dixièmes de la pole, c'est très serré. Et normalement, en course, ça devrait se resserrer encore un peu. Donc j'ai confiance. Je pense qu'on peut se battre avec Mercedes et Ferrari.
Alors Adrien, c'est le principe du verre à moitié plein, à moitié vide, hein. Et c'est ce qui est sympa chez Ricciardo, il regarde toujours la partie qui est pleine.
Non, mais Daniel Ricciardo a été très fort en course en Australie malgré le fait, enfin que les dépassements étaient compliqués. C'est un circuit complètement différent où effectivement l'écart qui le sépare des Ferrari est bien moindre et qu'il n'était en Australie en qualification. Donc si on garde la même tendance, il devrait être plus rapide que les Ferrari et les Mercedes. place aujourd'hui en course. Maintenant, voilà, il va falloir vérifier tout ça. C'est pas les mêmes températures une fois de plus. Et mais je pense que Daniel est très très rapide en course, très très constant. Il l'a toujours été, très très facile sur ses pneumatiques. Toujours été très coulé dans son pilotage.
C'est un sacré finisseur.
Voilà, donc il a toutes ses chances aujourd'hui, au moins de monter sur le podium.
Ouais, on y croit. Allez, et on y croit encore plus. On vous l'a gardé pour la bonne bouche. Un certain Pierre Gasly. Vous savez, on vous en dit du bien depuis pas mal de temps. Ben là, on a des vraies raisons de vous en dire du bien, Louis, parce que on peut dire que la qualification de Pierre, sixième en temps, mais cinquième sur la grille, est tout simplement phénoménale.
C'est absolument incroyable la qualification de Pierre Gasly. Pardon, je pensais que c'était moi de prendre la main.
Oui, c'était à toi, mais c'est pas grave. On va l'écouter dans un instant. Vas-y.
On va l'écouter. Vas-y. Très bien. Ouais. D'accord, donc Pierre Gasly, effectivement sa qualification elle est éblouissante dans la mesure où d'abord sa Toro Rosso est sur le papier l'une des voitures les plus faibles du plateau, en plus son moteur Honda n'a démontré, c'est un euphémisme, ni de la performance ni de la fiabilité lors des trois saisons où il équipait la McLaren, donc ça relève de l'exploit pour Pierre Gasly. On parle de sa séance de qualification, c'est la première Q3 de sa carrière, il n'a jamais été situé aussi haut sur une grille, mais en fait on pourrait presque parler de l'ensemble de son week-end, parce qu'il a terminé dans le top 10 lors des trois séances d'essais libres, ça démontre la constance des performances de Pierre Gasly. Maintenant, il y a un autre défi à relever aujourd'hui, c'est comment supporter la pression de partir si haut sur une grille de départ et ne pas, flamber, griller ses chances dès le début.
Ah ben oui, surtout qu'il y a du beau monde autour. Allez, on va l'écouter justement, Pierre Gasly à ton micro, Louis, à propos de cette qualif extraordinaire.
C'est une journée incroyable, on s'y attendait pas, on s'attendait pas à se retrouver ici. On était performants depuis le début du week-end, mais on savait que ça allait être serré. Et j'ai réussi à sortir mon meilleur tour depuis que je suis arrivé en F1 en Q3 ici, donc c'était juste le moment parfait et je suis très content. C'est un circuit que j'apprécie, depuis le début du week-end on a vu qu'on était toujours dans le top 10, on savait que ça allait être compliqué. Il fallait tout mettre ensemble, on a tout mis ensemble, moi j'ai réussi à tout donner dans la voiture et c'est juste super.
Et c'est juste absolument génial, cette qualif de Pierre Gasly. On va avoir l'occasion d'y revenir, hein, Adrien. Merci beaucoup, Louis. On te laisse fourbir tes armes. Mais bon,
à tout à l'heure,
ça va être un bonheur de partager cette épreuve, la deuxième du championnat du monde de Formule 1 avec toi à partir de 17h10. Et avec Adrien Tambay, bien sûr. Adrien, tu peux aller remettre des balles neuves aussi. Balles neuves, tu me vois venir. Mais oui, puisque nous allons bientôt sur le court de tennis, mais on retrouve Eric Salio et Florent Serra pour savoir où on en est entre Pouille et Fanini Il Pazzo. J'ai bien retenu, hein, Eric.
Fonini.
Ah, Fonini. Putain, mais à chaque fois, je me gourre. Écoute, bon, et Il Pazzo, c'est bon, Il Pazzo.
Il Pazzo, c'est parfait. Voilà, ça décrit tout à fait le personnage.
Je l'appellerai comme ça, maintenant.
Et tu, quand je donnerai la parole à Florent, tu comprendras pourquoi. 6 jeux à 5 pour Il Pazzo Fonini dans ce troisième set, mais balle pour faire tie-break pour Luca Pouille dans un match assez fantastique. On est vraiment dans l'ambiance Coupe Davis avec un Italien, Florent, qui a failli dégoupiller. Failli seulement.
Il a un petit peu parce que on a eu beaucoup de chance pour tout vous dire. Il y a eu une balle de 7 sur le service de Luca Pouille tout à l'heure où Fonini glisse un retour qui est gagnant parce que Luca Pouille ne bouge pas, n'esquisse pas le moindre geste. Malheureusement, cette balle touche le filet, ralentit la balle et il perd le point. Et là, il a brisé sa raquette en deux en fait avec sa cuisse. Donc il avait d'un côté le manche, d'un côté la raquette, la tête de raquette de l'autre. Bon, pas facile de jouer au tennis comme ça. Mais il s'est bien ressaisi sur le jeu d'après. Et là, on risque d'avoir un tie-break.
On espère un tie-break.
Dans quelques secondes. Donc, un set partout, tie-break dans le troisième set, ça va être chaud.
Ça va être chaud. Encore, et 40-30. C'est tout ce qu'on aime. Merci beaucoup. Eric et Florent, on vous retrouve tout à l'heure.
C'est fait, tie-break.
C'est fait. D'accord. Génial. Bah, ça va être chaud. Chaud bouillant. Allez, on va du côté du rugby. C'est la 23e journée. C'est le top 14. C'est Montpellier-La Rochelle. J'avais bien noté. C'était 21-17. Je me trompe pas, Julien Landry.
T'es bon, Jean-Luc. Ah, et c'est reparti avec un essai Montpellier en début de deuxième mi-temps. Ça fait 28-17. Et de nouveau, la spéciale du MHR. Un groupe pénétrant qui va aller encore derrière la ligne. Et c'est le cinquième essai. Synonyme de bonus offensif. Et le doublé. Alors, c'est Kélian Galtier qui était à la manœuvre de ce groupe pénétrant. Et ça va faire 33-17. Pour les Montpellierains, transformation à suivre. Les Montpellierains sont en train d'accélérer petit à petit et ils ont le bonus offensif dans la poche. 33-17 pour le MHR. On joue depuis 52 minutes à la Trade Stadium.
Merci beaucoup, Julien. On te retrouve tout à l'heure pour la suite de cette deuxième mi-temps. Et nous, on va parler sport mécanique. On va parler moto dans un instant. Ce sera dans Radio Paddock et ce sera avec Aurélien Tirsain. Vous restez avec nous dans Motors sur RMC.
RMC Motors. RMC Motors avec Motorsport TV, Jean Lecroix.
Allez, vous êtes bien dans Motors, toujours sur RMC. On vous a parlé de championnat du monde des rallyes avec la magnifique victoire de Ogier et Ingrassia avec la Ford, c'était en ouverture. On vous a parlé de Formule 1 avec une grille de départ sous très haute tension à Bahreïn avec les deux Ferrari. Eh bien, on fait un tout petit saut du côté de Paris-Roubaix, un grand saut, mais ça, on va y revenir avec Pile, Pierre-Yves Leroux qui est là et on retrouvera Arnaud Souk tout à l'heure. Où en est-on? Salut Pile.
Salut Jean-Luc, encore 144 km à parcourir, 5 minutes d'avance pour une dizaine d'échappés, dont le français Geoffrey Soup, mais déjà les premiers dégâts en entrant sur les premiers secteurs pavés, puisqu'il y a eu une chute tout à l'heure. Le peloton s'est scindé en deux et dans la deuxième partie, eh bien, on retrouve notamment le vainqueur de l'année passée, Greg Van Avermaet, et également Oliver Nassen, le leader de l'équipe AG2R. Oh, ça va peut-être se regrouper quand même. Il reste encore beaucoup de temps, 143 km à parcourir, 5 minutes d'avance donc pour les échappés.
Merci beaucoup Pierre-Yves Leroux depuis la route de Paris-Roubaix. On retrouvera, je vous l'ai dit, Arnaud Souk tout à l'heure pour une spéciale, un direct spécial depuis Roubaix, et vous suivrez toute cette épreuve évidemment avec le tennis. Vous savez qu'on est partout sur RMC. RMC, c'est aussi la radio de la Formule 1 et c'est aussi la radio du championnat du monde de vitesse moto. J'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Thiersin. Salut.
Salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Et on va envoyer, bah c'est Radio Panel.
Ah oui.
Bah oui, bah oui, bah oui.
RMC Motors.
World champion! Oh my god!
Radio Paddock.
Alors ça, c'était pour le quatrième titre d'Hamilton, hein, ce qu'on a entendu. Alors est-ce qu'il va y avoir un titre pour qui? Alors parle-nous de la grille déjà en MotoGP qui a été sous haute tension également, Aurélien, parce que il pleuvait, donc ouais. La piste était humide et on a vu des pilotes faire des paris absolument
c'était
incroyables.
C'était passionnant. Ah, c'était oui. Passionnant. Le Grand Prix, c'est le Grand Prix d'Argentine. Hein. Ça sera à 20h. Première pole position pour l'Australien Jack Miller. Ça, c'est donc une petite surprise. En première ligne, on retrouve avec lui l'Espagnol Dani Pedrosa et notre Français Johan Zarco qui est donc en première ligne. En deuxième ligne, on va retrouver les trois Espagnols Rabat, Rins et Marc Marquez, le champion du monde en titre. Troisième ligne, Alex Espargaro, encore un Espagnol, Andrea Dovizioso et Maverick Viñales. Ensuite, Cal Crutchlow, le Britannique, Valentino Rossi, simplement 11e. Donc
hein,
voilà,
ouais,
simplement 11e à côté de son compatriote Andrea Iannone. Derrière, Karel Abraham, le Tchèque, 13e. Et Jorge Lorenzo, également une petite surprise, n'est que 14e sur la grille de départ.
Alors, pour commenter, Aurélien, si tu le veux bien, d'abord, on le dit, on le répète sans arrêt, le rôle du pilote est tellement important dans le résultat à moto. Et a fortiori là, parce que la piste était humide. Alors, humide par endroit, détrempée sur la fin du tour, dans le troisième secteur. Et Jack Miller a fait un pari incroyable. Et là, c'était, on en avait les poils dressés. C'est que, il a choisi de chausser des pneumatiques slick pour le sec. Il a fait un premier tour où il a failli, mais alors, se mettre sur le béret, mais il a récupéré sa moto. On se demande comment. Une Ducati privée, hein, du team Pramac. C'est ça qui est extraordinaire.
Grosse performance de la part de l'Australien. C'est sa première pole position. À Jack Miller, c'était plus arrivé depuis Kazestoner. Donc voilà, ça remonte un petit peu pour les Australiens, donc grosse performance. Et Johan Zarco, il l'a même reconnu, lui il n'aurait pas tenté ce pari des pneus parce que c'était vraiment osé.
Il a préféré rester sur ses roues. Et Dani Pedrosa qui a fait une belle performance aussi avec Landa. On va y revenir dans un instant si tu veux bien, Aurélien, parce que je crois que les choses ont progressé dans le bon sens du côté de Genova, entre, je vais le dire bien, entre Pouille et Fognini, il passe, Eric.
Absolument, 2-7 voilà. Pour Lucas Pouille dans ce match 4 qui peut être décisif pour les Bleus, puisque les Bleus mènent 2-1, un tie-break remporté 7-3 par Lucas Pouille. Mais il a eu chaud hein, puisqu'il a effacé 3 balles de 7 il y a environ une dizaine de minutes, Florent. Donc là, peut-être a-t-il pris l'ascendant sur Il Pazzo Fognini.
Oui, en tout cas, on revient de loin hein, dans ce set avec, on le rappelle, ce retour qui était quasiment gagnant de Fognini, Lucas qui ne bouge pas. Et puis ce petit coup du sort avec la balle qui est ralentie par la bande, qui remet Lucas en course. Et on a vu Fognini un peu s'agacer dans le tie-break parce qu'il donne beaucoup de points à Lucas Pouille dans ce tie-break. On le voit parler avec son coach, son capitaine Barazzutti, ressasser sûrement ce point. Et c'est Lucas donc qui prend les devants, non sans mal, mais qui mène 2-7-1 maintenant. La question est de savoir si Fognini dans la tête est capable d'aller chercher ce match en 5-7. En tout cas, nous on l'espère pas.
Merci beaucoup Eric et Florent. Oui, on l'espère pas, mais il est fou, hein. Attention, avec les fous, tout peut arriver. Si jamais il switch et s'il a des raquettes de rechange, si j'ai bien compris. Allez, on revient à la moto. Là aussi des pattes, hein, je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns. Aurélien, on était en train de parler de la grille de départ. Donc moi, j'ai été bluffé hein, par Jack Miller, vraiment. Et il faut savoir qu'il a fait le saut également du Moto 3. On va donner la grille très rapidement. Moto 3, directement Moto GP, ce qui est ahurissant, cet Australien. Et pour décrocher cette pole en slick, donc je le répète. Là où tu le soulignais il y a un instant, Johan Zarco, intelligemment, hein, n'a pas tenté le diable. Il a préféré se placer en première ligne avec les pneumatiques pour la pluie.
Ouais, effectivement, c'était ce gros pari, c'était la petite fenêtre de tir où la piste séchait un petit peu, mais effectivement, ça aurait pu s'avérer catastrophique. Tu l'as dit, il a failli partir dans le décor avec sa moto, mais voilà, c'est une belle pole position pour Jack Miller, sa première. Et par contre, il y a des gros bras des cadors qui sont assez loin. Valentino Rossi pour commencer seulement 11e.
Eh oui, là c'est une vraie déception. Bon, on sait que c'est un peu la loterie. Attention, parce que Valentino, tu le sais comme moi, en course, il n'a pas son pareil pour remonter.
Faudra savoir. MotoGP, c'est plus simple qu'en Formule 1, enfin entre guillemets.
Ah bah il y a pas de problème hein, pour remonter là, on peut y aller. Là c'est il suffit d'avoir effectivement le courage. Donc et on n'oubliera pas Andrea Iannone et son compatriote effectivement qui est à côté avec la Suzuki. D'ailleurs, je voudrais souligner que si on a une Ducati privée, une Honda officielle et une Yamaha privée, donc celle de Tech 3 à Zarco en première ligne, eh bien on a une Ducati, une autre, celle de Tito Rabat, c'est aussi une équipe privée. On a la Suzuki qu'on ne voit d'habitude pas hein, sur le sec avec Alex Rins, et puis une autre Honda officielle de Marquez. Donc ça veut dire que on rebat les cartes, et là Prilia n'est pas très loin. Hein.
Ouais, effectivement, et on va peut-être dire un petit mot aussi sur Jorge Lorenzo qui est seulement 14e, petit peu comme Rossi. Voilà, il part très loin, c'est une contre-performance pour Lorenzo.
Oui, et il a du mal hein, depuis le début, depuis qu'il est passé sur Ducati. On va dire un mot de la grille du Moto2 avec Xavi Vierge. C'est un Espagnol évidemment avec une Kalex qui a le meilleur temps devant Lorenzo Baldassari, un pilote italien, et puis Danny Kent. Le Britannique, alors du côté des Français, il faut aller plus loin.
Ils sont tout en bas, 28e et 29e.
Ouais, malheureusement, Fabio Quartararo et Jules Danilo. Et puis du côté du Moto 3, où bah là c'est simple, malheureusement, il n'y a pas de Français hein, cette année. C'est Tony Arbolino, c'est une surprise, qui a signé le meilleur temps avec une Honda devant les deux KTM de Bezzecchi et Rodrigo.
Un petit mot peut-être du tracé du Grand Prix d'Argentine. C'est la 15e édition pour le Grand Prix MotoGP. Autodromo Termas de Rio Hondo. Alors c'est un petit nom qui...
Faut
leur mettre dans l'ordre un petit peu de temps en temps.
Ouais.
Bon, c'est quoi les spécificités de ce tracé donc en Amérique du Sud?
Alors c'est un tracé qui est très peu utilisé et il est perdu au fin fond de l'Argentine. D'ailleurs pour y aller, je peux te dire que c'est un peu la galère pour tout le monde. Mais bon, c'est un circuit qui présente des particularités intéressantes. Alors il a une forme un peu curieuse. Hein. C'est pas très radiophonique, donc je vais pas vous la décrire. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelques épingles très serrées. Donc il faut beaucoup de motricité à la reprise. Évidemment, des grosses capacités de freinage. Il y a une seule vraie ligne droite où on atteint environ 320 km/h quand même avec ces machines. Et puis on va rappeler que l'an dernier, eh ben c'était Vignales qui s'était imposé avec un début de saison qui était en fanfare avec la Yamaha, tu t'en souviens, devant Valentino Rossi. C'est pour dire que attention aux multiples champions du monde, nonuple champion du monde, lui aussi 39 ans, le vétéran, il sera là. Et Cal Crutchlow qui avait signé une belle performance. Et puis en Moto2, c'était Morbidelli devant Oliveira. Voilà.
Vignales, Crutchlow et Rossi vont partir groupés, hein, 9, 10, 11. Et c'est quoi les chances de Zarco rapidement sur ce tracé du coup, 3e au départ, on le rappelle?
Oui.
Les chances de Johan Zarco en Argentine.
Ah bah, écoute, attends, on l'attend cette victoire. Moi, je peux te dire, on l'attend cette
aujourd'hui.
Victoire. Ah bah moi, j'y crois. De toute façon, il va la décrocher. C'est qu'une question de temps, donc on y croit. Merci beaucoup, Aurélien.
Merci.